Écoutez, écoutez-moi. C'est ce que dit Moshe au moment de sa mort, enfin un peu avant de mourir. Moshe adresse un long discours aux enfants d'Israël sous une forme de cantique. C'est un des passages poétiques les plus sublimes de toute la Bible, la paracha de Ha'azinu, dans laquelle Moshe dit « Écoutez-moi ». Mais à qui dit-il « Écoutez-moi » Il dit cela au ciel et à la terre. « Écoutez, ô cieux, quand je parle, et que la terre soit attentive à mes paroles. » Vous savez que dans toute la Bible, il n'y a pas le mot « le monde ». Il n'y a jamais une entité, à la manière des Grecs, le cosmos, qui serait une seule et grande entité. Il y a toujours deux éléments, le ciel et la terre. Le ciel désignant tout ce qui est céleste et spirituel, et le mot « terre » désignant tout ce qui est terrestre, et donc matériel, si l'on veut être schématique. Et Moshe juge que lorsqu'il parle, le monde entier doit être attentif à ce qu'il dit. C'est très bizarre. Si j'ai quelque chose à dire, il concerne l'interlocuteur. Eh bien, non. Pour Moshe, l'interlocuteur de son discours, c'est l'univers tout entier. Il y a une dimension cosmique à ce que Moshe veut révéler. C'est-à-dire que le discours de Moshe ne s'insère pas seulement dans le moment et le lieu historique où ce discours a été donné, il fait partie de l'ordre du monde. Et qu'est-ce que Moshe veut nous raconter? Eh bien, il nous parle, en fait, depuis la création du monde, jusqu'à la fin de l'histoire, mais très très loin, même la résurrection des morts est évoquée dans son discours. Cela veut dire que pour comprendre véritablement ce que la Torah veut nous dire, il faut tenir compte de l'ensemble de l'histoire et que les portes et les fenêtres qui nous ouvrent vers l'histoire du monde soient bien ouvertes. Et donc le monde entier doit écouter. Eh bien, de quoi parle-t-il? Il nous parle entre autres de l'élection du peuple d'Israël. Et il revient un peu à des événements de la séparation de l'humanité en différentes nations. Lorsque le Très-Haut a donné en héritage aux nations leur partage, il a choisi Israël, mais, rajoute Moshe, il a formé les nations selon le nombre des enfants d'Israël. C'est quoi le nombre des enfants d'Israël ? Eh bien, le plus petit nombre, c'est le nombre de 70. En effet, dans le livre de Bereshit, la Torah insiste sur le fait que les enfants d'Israël qui descendent en Égypte, le premier noyau qui va devenir la nation d'Israël, était formé de 70 individualités. Et alors, ce chiffre de 70 n'est pas un hasard. Il correspond à la typologie des 70 nations de la terre selon la Torah. Nous savons qu'il y a beaucoup plus que 70, mais cela veut dire les identités archétypiques, celles qui sont le fondement des différentes manières d'être homme. Or, ce que dit Moshe, il a formé le nombre des nations selon le nombre des enfants d'Israël. Ce qui veut dire que l'identité d'Israël, l'élection d'Israël, a une finalité universelle. Ce qui revient un peu à l'enseignement bien connu de Rabbi Yehuda Halevi, qu'Israël parmi les nations est comme le cœur au sein des organes. Un cœur qui n'a pas d'organes à alimenter ne sert pas à grand-chose. Et des organes qui ne sont pas alimentés par un cœur ne peuvent pas vivre. Ce qui veut dire donc que le devenir d'Israël et des nations est un devenir commun. Il ne s'agit pas d'une histoire totalement séparée du reste de l'humanité. Parce que si c'était une histoire totalement séparée, eh bien le Créateur aurait mis les enfants d'Israël sur une planète et les nations sur une autre planète. Or, comme par hasard, nous sommes sur la même planète, le même globe. Cela veut donc dire qu'il y a un projet universel dont Israël serait la colonne vertébrale, serait la moelle épinière. Mais c'est un projet qui concerne l'humanité dans son ensemble. Et là, il y a des paroles très dures de Moshe sur le comportement éventuel des enfants d'Israël. Un verset nous parle de l'éventualité même de la Shoah. « J'ai envisagé, dit Dieu, de détruire ce peuple, mais il aurait entraîné une profanation de mon nom, donc je ne le ferai pas. » mais l'éventualité terrible d'une extermination apparaît en filigrane. De toute façon, finalement, le projet d'Israël doit aboutir. Mais ça passe par des vicissitudes. Par exemple, lorsque il est dit « Hem kin uni beloel », ils m'ont jalousé avec un non-dieu. Ça veut dire quoi, jalouser avec un non-dieu? D'habitude, quand la Bible critique le paganisme, les idoles, elle emploie l'expression de d'autres dieux, ou bien de Elilim, des petits dieux. Mais quand la Torah ici emploie une expression assez rare, l'Oel, un non-dieu, il s'agit de, non pas d'un dieu étranger, il s'agit justement de l'athéisme, ou pourrait-on dire de l'indifférence. Il y a des sociétés dans lesquelles il y a une indifférence à la réalité divine. Dieu devient une option personnelle. Vous pouvez y croire ou ne pas y croire. Mais en tout cas, il n'est certainement pas le fondement de la société et de l'ordre social. Eh bien, c'est ça que la Torah appelle « ils m'ont jalousé par un non-dieu ». Et le résultat, « ki asuni be'avlehem », ils m'ont fâché, ils m'ont courroucé par leur vanité. En effet, une société sans Dieu est également une société qui est préoccupée par des vanités, par des choses futiles, qui n'ont pas de rapport avec l'éternité. Et alors la réaction est à nouveau assez surprenante. « Va'ani akniem beloam » et je les jalouserai par un non-peuple. C'est quoi un non-peuple? Ce n'est pas un peuple autre. Il s'agit d'un peuple qui n'est que l'expression de la vacuité de l'identité d'Israël. C'est-à-dire que là où je ne veux pas être Israël, le lieu, aussi bien géographique que physique ou moral ou spirituel, dans lequel je ne veux pas être moi-même, eh bien ce lieu sera occupé par un rival. Il y a souvent un rapt d'identité d'Israël par les rivaux d'Israël. De toutes sortes, à chaque génération, ça peut être une autre forme de rivalité. Une rivalité religieuse, une rivalité politique, une rivalité d'identité. Et c'est ce que dit ici le texte. Puisqu'ils m'ont jalousé en méprisant avec leur indifférence envers la chose divine, eh bien ils seront rivalisés par un non-peuple. Et chacun est libre de réfléchir à quel est ce type de non-peuple dont la Torah parle ici. Il y a également, comme on l'a déjà dit, une allusion à la résurrection des morts. « Ani amit ve'achaye »« Je mets à mort et je ressuscite »« Machatzti va'anirpa »« Je frappe et je guéris » Mais faisons bien attention, cette annonce de la résurrection des morts n'est pas la simple annonce banale d'un miracle, quelque chose qui relèverait du magique. Il est en fait la révélation de la toute-puissance du Créateur. Ça veut dire que l'histoire n'est pas abandonnée. Chaque moment de l'histoire, même les plus terribles moments de l'histoire, font partie d'un projet, et c'est ça que dit Dieu quand il dit « N'oubliez pas que je suis toujours là, puisque je suis même capable de ressusciter. » Et puis, la conclusion du long cantique de Moshe, c'est que vient un temps où le sang d'Israël sera vengé et que Israël recouvrira son sol. Vechiper admato amo. Et ça veut dire que, en fait, pour que l'histoire aboutisse, il faut que la justice soit faite. S'il n'y a que souffrance, même si cette souffrance est noble, la souffrance au nom du devenir d'Israël, de l'élection d'Israël, mais que cette souffrance n'aboutit pas à une mise en place d'une justice en fin d'histoire, alors l'histoire n'est pas véritablement réussie. Et donc, il faut que l'histoire passe par l'accomplissement de la justice et du retour d'Israël à sa terre, et alors, harninu goyim amo, et c'est alors que les nations loueront l'Éternel avec son peuple tous ensemble. C'est un projet universel de sanctification du Créateur et de réussite de l'histoire.